Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Radio Kai, la radio du quartier nord de Bruxelles, accueillie tous les quatrièmes samedis du mois à 20h par Radio Campus, notre radio copine-cousine du sud de Bruxelles, 92.1 ou radiocampus.be. Puis, en écoute libre sur radiookai.be, radio c'est comme radio et okai c'est okai.be, le tout, tout attaché, radiookai.be. Radio Okai, c'est une radio qui vit au rythme du quartier nord, un quartier qui a beaucoup à dire, beaucoup à partager, beaucoup à faire découvrir. Et qui se pique aussi, depuis peu, de nourrir. On vous en parle ce mois-ci. Radio Okai, c'est une radio informative, culturelle et participative. Donc, vous la faites aussi. Dites-nous tout sur notre site. Et contactez-nous si vous avez envie de donner de la voix. On attend que ça. Donc ce mois-ci, on a passé du temps avec certains de nos voisins. Car depuis quelques mois, l'ASBL Cuisine de Quartier a emménagé Place Mazui dans les locaux de Zinneke. Et au début de l'hiver, ils organisaient leur événement annuel, soit une grande rencontre de toutes les cuisines de quartier locales à Bruxelles, suivie d'un festival de partage d'expériences autour de stands variés et ouverts au tout public. Le tout ponctué par un buffet, un goûter et des prises de parole engagées. On a participé à toute la journée et on y a rencontré Tessa, Amélie, Fanny et Charlotte, les piliers de la SBL. On a appris l'histoire des cuisines de quartier, ses buts, ses idéaux, ses engagements. On s'est retrouvés et on a échangé autour du banquet végétarien juste merveilleusement bien. Big up à Apus et les cocottes volantes pour le dal épicé comme il fallait, les beignets de chou-fleur, les gâteaux aux mille saveurs, entre autres délices sucrées et salées et vous l'aurez compris, tout le monde s'est régalé. On a appris à cuisiner des invendus avec Melvin, conserver du bouillon maison pendant des mois avec Tessa ou faire la différence entre les différents blés, levains et graines de tous bords avec Fazia. On a compris que l'assiette, les casseroles et leur histoire étaient politiques, économiques et chargées de rencontres en tout genre. Bref, on s'est plongé dans les coulisses des cuisines de quartier, on a beaucoup aimé et on est très heureux de vous partager tout ça. Bonne écoute! Ben bonjour, bienvenue sur Radio Kai. On est dans nos studios aujourd'hui. On est en présence d'Amélie, de Cuisine de Quartier. Et on a la chance d'être dans notre studio parce que Cuisine de Quartier a investi l'espace de Zinneke pour sa journée de rencontre annuelle, si j'ai bien compris. Donc Amélie, je vais d'abord te demander de te présenter parce que tu étais là dès le début de cette journée pour accueillir tous les participants. Ben d'abord, qui es-tu dans cette organisation et qui es-tu en général d'ailleurs?
Ben oui, moi je suis Amélie Dams. Par rapport aux cuisines de quartier, ben je coordonne la SBL. Et moi j'ai un parcours très composite. Je suis anthropologue à la base. Et puis depuis une dizaine d'années, je m'intéresse beaucoup à la question de l'alimentation. Je rêverais d'ailleurs de reprendre des études d'anthropologie alimentaire. Mais là plutôt, je travaille sur le concret. J'avais lancé il y a quelques années un projet qui s'appelait la conserverie collective. Et c'est par là que j'ai rencontré en fait les cuisines de quartier. Mais voilà, pour revenir à ta question, moi je suis avec l'équipe des cuisines de quartier. On est 4 dans l'équipe. Il y a aussi Fanny et Tessa qui accompagnent les groupes sur le terrain. Et il y a Charlotte qui travaille sur tout ce qui est lié à la communication, au partenariat et qui met en forme aussi tous les outils qu'on construit avec les groupes.
Et alors, qu'est-ce que c'est cuisine de quartier exactement? Il y a cuisine, il y a quartier, donc ça donne des petites pistes. Voilà. il y a groupe, il y a communauté
exactement.
Et il y a cuisine.
Ouais. Donc une cuisine de quartier, c'est un groupe de personnes qui décident de mettre en commun leur temps, leurs moyens financiers, leur énergie et leur savoir-faire pour cuisiner ensemble des plats du quotidien dans des cuisines partagées de leur quartier. Donc les gens ne vont pas cuisiner chez elles ou chez eux, mais dans des espaces partagés. C'est une notion très importante pour nous aux cuisines de quartier. L'idée, c'est aussi, et c'est ça qui est particulier, ce n'est pas une cuisine solidaire au sens à destination d'autres que soi. C'est vraiment plutôt c'est faire ensemble ce qu'on a été habitué à faire chacun chez soi, en fait. C'est cuisiner pour le quotidien, mais à plusieurs mains. Et ces groupes, ils se retrouvent une ou plusieurs fois par mois, ça dépend très fort. Il y a des groupes qui vont se voir deux fois par mois, la plupart se voient plutôt une fois par mois, mais alors cuisinent en grande quantité plusieurs recettes qui se séparent en portions à ramener à la maison.
Donc il y a à la fois une dynamique collective, donc de vivre ensemble, et une dynamique économique, je suppose, parce que cuisiner pour 10, c'est pas ou fois le nombre de personnes pour lesquelles on rapporte chez soi, c'est beaucoup plus économique que de cuisiner seul.
Ouais, exactement. Donc ça joue en fait sur plein de niveaux en même temps. Cuisiner ensemble, c'est aussi une occasion de se rencontrer, de resserrer des liens ou d'en créer de nouveaux. Parce qu'à travers la cuisine, on raconte plein de choses, en fait. On parle de soi, on parle de ses souvenirs, de sa famille. Cette dimension-là, elle est aussi super importante. Mais le point d'ancrage, c'est vraiment justement un mode de résistance et de lutte contre les inégalités alimentaires qui se joue à la fois au niveau de l'argent qu'on a pour se procurer des ingrédients et a fortiori des ingrédients de qualité, mais aussi de ce qu'on a comme moyen pour cuisiner chez soi. Et voilà, on est dans une période et ce qui s'annonce va dans la même direction, ouais. Où de moins en moins de gens ont chez eux l'espace et l'équipement suffisant pour cuisiner dans des bonnes conditions. Il y a aussi toute la question énergétique. De plus en plus de gens hésitent à faire tourner le four,
ouais.
ou à faire tourner simultanément plusieurs plaques électriques. Pour se faire des plats mijotés, etc. Et donc, ça part vraiment de ce constat-là, en fait, qu'on nous rabâche très régulièrement que pour être en meilleure santé, il faut manger maison, il faut cuisiner des produits bruts. Mais cuisiner des produits bruts, ça demande toute une série de choses, en fait. Que ce soit de l'argent, des moyens financiers pour s'acheter des produits bruts qui, paradoxalement, sont plus chers
ouais.
que des plats ultra transformés. Mmh. Mais ça demande aussi... un équipement, ça demande de l'espace, ça demande une cuisine, et puis ça demande des savoir-faire. Et ça, il y en a plein, évidemment, mais on n'est pas toujours dans les meilleures conditions pour les exploiter, disons.
Voilà. Et concrètement, il y a aussi un partage de savoir.
Absolument. Ouais.
Là, on était au début de... On est dans l'encours de la journée. On va peut-être en parler un petit peu du programme. Mais, et on entendait les deux premières conférences. Hein, c'est des conférences participatives qui étaient sur le pain pour l'une et sur la conservation pour l'autre. Et donc, il y avait des personnes qui partageaient. Le pain, ça peut paraître quelque chose de très basique, mais en fait, on a pu assister à l'énoncé de la conférence. Enfin, ça paraît un petit peu ardu de dire conférence, parce que ça avait l'air beaucoup plus sympa qu'une conférence mais ex cathedra. Mais il y a énormément de choses à apprendre, et sans doute qu'on ne voit plus le pain qu'on achète au supermarché parfois de la même façon quand on a des bases et qu'il y a un échange de savoir, je suppose.
Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est particulier aux cuisines de quartier, c'est qu'il y a à la fois la dynamique collective à l'intérieur des groupes, où il y a déjà tout cet échange de savoir, de connaissances sur l'alimentation, sur les recettes et tout. Mais il y a aussi une autre échelle collective, c'est l'échelle du mouvement. Donc on est un mouvement, cuisine de quartier. Les groupes sont reliés les uns aux autres. Et ça prend une forme concrète, ce mouvement, lors de plusieurs moments. On organise tous les 3 mois des rendez-vous des cuisines, où les groupes se retrouvent pour s'échanger leurs questions, leurs découvertes, leurs difficultés, et trouver des solutions ensemble. Et il y a le moment qu'on vit aujourd'hui, qui est la rencontre annuelle, qui a lieu chaque année au moment de l'anniversaire, en fait, de l'ASBL. Et où là, c'est vraiment l'occasion pour tous les groupes de Bruxelles de s'identifier, de savoir que tous font partie de ce même mouvement et de partager leur savoir, mais alors à l'échelle du mouvement. Et donc chaque année, à ce moment-ci, il y a des ateliers sur des thématiques qui ont été identifiées comme importantes par les groupes en activité pour l'instant. Et il y a beaucoup de groupes qui traitent la question de la conservation, parce qu'évidemment, quand on ramène des portions à la maison, il faut encore
savoir
comment est-ce qu'on les garde. Oui. Parce que ça ne sert à rien si on a plein de plats, mais qu'on n'a pas
qu'un
micro-frigo
ou
un tout petit congélo. Ouais. Et donc, on travaille beaucoup, beaucoup en fait, ces questions-là de comment est-ce qu'on prépare des recettes qui ont une durée de conservation et des modalités de conservation jouables. Et donc là, il y a Tessa, qui est l'une des membres de l'équipe, qui a son atelier sur cette... Enfin, c'est une conférence-atelier.
Oui.
Donc là, par exemple, je viens de quitter la conférence. Ben, il y avait des dames qui partageaient une recette de viande conservée dans la graisse, dans le Maghreb, qui tient des années. Et elles nous expliquaient c'est quoi la technique. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée.
C'est,
en fait,
c'est vraiment un échange. C'était pas Tessa qui
l'amenait,
c'était
Tessa,
vraiment
elle amène un fil.
Ouais.
Et puis après, c'est ce fil-là qui est alimentée et nourrie justement par toutes les personnes présentes. Et Fasia, c'est la même chose.
Oui,
le pain, en fait, c'est, ouais, le pain, en fait, c'est un des ingrédients de base de la cuisine quotidienne pour plein de cultures, mais de différentes manières. Oui. Et là, c'est voilà, échanger sur quelles sont les sources de comment est-ce qu'on peut aussi se procurer du grain de bonne qualité, c'est quoi la différence. Voilà. Et donc voilà, ce truc de mouvement est vraiment important pour nous.
Et donc, on était en train de parler du concret, des ateliers, des échanges. Et moi, j'avais aussi envie de revenir sur l'histoire. Parce que j'ai changé deux, trois mots avec
Fanny.
Fanny, ouais. Voilà, oui. Qui disait que vous aviez été aussi au Québec. Ouais. Donc, dans d'autres pays, ça existe aussi.
Ouais,
où est la naissance du mouvement et comment est-ce que vous avez décidé un jour de dire bah en fait on va créer ça en Belgique, ça n'existe pas encore, et où est-ce qu'on dans d'autres pays est-ce qu'on peut retrouver ces cuisines de quartier?
En fait le projet, il est né à la suite d'une grande recherche action. Je dis grande parce qu'elle a été longue, c'était de 2015 à 2018, un projet qui était initié par je sais pas si vous connaissez le supermarché coopératif, la Biscoop, qui est situé en plein cœur de Scarbeck, limite Saint-Josse. C'est un supermarché coopératif qui vise à rendre une alimentation durable et de qualité accessible à tous, mais qui s'est très vite posé la question de mais comment, s'installant dans un quartier comme fortement paupérisé, avec des personnes, des habitants et habitantes de toute origine, comment est-ce qu'on va faire pour pas être un projet ghetto qui finalement ne parle qu'à une toute petite part de la population,
qui souvent,
vraiment s'adresse à tous.
Qui est souvent une critique qu'on peut, voilà. On peut adresser aux...
Oui, tout à fait. Et donc, un peu pour parer à ce truc qu'ils voyaient arriver comme le nez au milieu du visage, l'équipe de la Biscoop a décidé de mettre en place, avec l'ULB, avec plein d'assos du quartier environnant, une grosse recherche-action, sur comment est-ce qu'on peut réellement rendre une alimentation durable et qualitative accessible à tous et à toutes, dans un quartier comme ici à Scarbeck, quoi. Et donc, lors de ce projet de recherche-action, plein de gens du quartier, plein d'habitants et habitantes ont été impliqués. Et de fil en aiguille, il s'est avéré que oui, il y a plein de freins qui empêchent l'accès à ces systèmes alimentaires alternatifs ou durables. Et notamment la question financière, c'est clair, mais pas que. Il y a plein d'autres freins. Il y a des freins qui sont aussi plutôt d'ordre symbolique sur le type le mode de communication, en fait, de ces projets-là. Mais aussi sur des mots d'ordre, cuisiner maison, cuisiner chez soi, cuisiner des produits bruts, qui parfois vont à l'encontre des contextes. Déjà, ça préjuge que les gens cuisinent pas chez eux, ce qui n'est pas forcément vrai. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de stéréotypes ou d'espèces de stigmates qui enfreignent finalement l'accès à ça. Et de fil en aiguille, ce collectif, donc composé des chercheurs, mais aussi habitants, assos, etc., ont identifié qu'au fond, là où il y avait peut-être un point d'achoppement, c'est sur la question de la cuisine du quotidien. En fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées sur... beaucoup. Jamais assez, mais il y en a quand même pas mal sur la question de la distribution alimentaire, sur la question de la production alimentaire, avec les petits maraîchages de quartier, les agricultures urbaines, etc. Mais sur vraiment la question de la cuisine quotidienne, à part des ateliers de cuisine ou des grandes démarches de sensibilisation à cuisiner mieux ou à cuisiner chez soi, il n'y a pas grand-chose. Or, il y a des vrais freins, et on les a cités, l'accès à des espaces, l'accès à des... à du matériel, à du temps aussi pour cuisiner. Et donc, c'est là-dessus vraiment que l'équipe de chercheurs s'est concentrée. Et en découvrant qu'est-ce qu'il y a au fond dans le monde qui vient comme méthode concrète pour répondre à ça. Et c'est comme ça qu'ont été découvertes les cuisines collectives du Québec. Donc, en fait, à Montréal et au Québec plus largement, le regroupement des cuisines collectives du Québec est un mouvement national gigantesque qui rassemble à l'heure actuelle 1500 groupes de cuisine. Le mouvement, il existe depuis 40 ans et c'est devenu vraiment un acteur dans la lutte pour le droit à l'alimentation, un acteur incontournable. Et donc, ce groupe de chercheurs-chercheuses, donc je rappelle qu'ils ne sont pas uniquement des académiques, mais vraiment des habitants, des gens habitants, du terrain. Des gens du terrain et des gens, des habitants et habitantes du quartier vraiment sont partis à 15 à la rencontre du mouvement des cuisines, enfin du regroupement des cuisines collectives du Québec. Ils ont fait le tour de plein de cuisines communautaires comme ça, là-bas, en discutant avec les gens, en se rendant compte de ce que ça demandait aussi, enfin, de ce que ça permettait et de ce que ça exigeait. Et puis ils sont revenus avec cette idée que, en fait, il faudrait lancer la même chose ici en Belgique, qu'on en a besoin, à Bruxelles particulièrement, mais en l'adaptant évidemment, parce qu'on n'est pas au Québec. Et puis, et donc voilà, petit à petit, c'est comme ça que le mouvement est né, d'abord avec deux groupes, et puis actuellement, il y en a 35.
Donc très concrètement, les groupes se forment parce qu'ils ont entendu par bouche à oreille ou autrement de cuisine de quartier. Donc ils disent, bah, en fait, dans mon quartier, moi par exemple, je pourrais dire, je sais qu'à la crèche à côté de chez moi, peut-être, il y a une cuisine qui, le mercredi, entre telle heure et telle heure, n'est pas utilisée. Et je connais 4, 5, 10 personnes autour de moi qui seraient super enchantées de pouvoir, de temps en temps, aller cuisiner en groupe. Je contacte Cuisine de Quartier, et voilà, et je crée un groupe de quartier, et je vais sonner à la crèche.
Ouais, et nous, on est là, en fait, pour, avec l'équipe, dans la mesure de nos moyens aussi, ce sera peut-être pas dans l'heure, mais pour aller, pour vous accompagner, pour présenter la démarche, pour montrer aussi que, ben, comme je disais, il y a tout un réseau autour, un réseau de soutien qu'on peut aussi trouver les moyens pour équiper. Si la cuisine, par exemple, n'est pas bien équipée, il y a peut-être l'espace, mais il n'y a pas les casseroles et tout ça. Ben là aussi, on commence à avoir des filières pour trouver de l'équipement grande quantité, pas trop cher. Et puis
qui reste alors dans la cuisine. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de win-win dans
En fait, il y a aussi plein de lieux où, a priori, ce sont des espaces qui sont destinés à soutenir des démarches communautaires. Bah, la cuisine collective, c'est une démarche communautaire. Et donc, ça vient aussi remplir une mission, souvent, de la structure en question. Il y a parfois, il y a aussi, on a un resto participatif qui met sa cuisine à disposition. On a des cuisines de tout type. Et ce qui est particulier, c'est que comme c'est de la cuisine domestique, c'est de la cuisine pour chez soi, bah, on n'a pas besoin d'être avec les réglementations AFSCA et tout le bazar. Ouais. C'est assez simple, en fait. C'est pas un type d'espace très compliqué.
Oui, et suivant l'espace, j'ai pu voir que, par exemple, il y a un espace, je sais, qui est utilisé par des employés. Donc, en telle heure et telle heure, il faut laisser l'usage. Ouais. Voilà, donc c'est des règles qui sont au fil des participations, des collaborations. Et pour en revenir à la journée d'aujourd'hui, on a entendu l'anniversaire, c'est la date plus ou moins anniversaire du groupe belge, Cuisine de Quartier. C'est toute une journée. Il y a une matinée qui est vraiment pour les personnes qui sont dans le mouvement, Cuisine de Quartier Belgique. Et puis, il y a toute l'après-midi qui est ouverte au public.
Et entre les deux, il y a un banquet.
Et entre les deux, il y a un banquet. Et comment est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu quel est le fil conducteur de la journée, comment ça s'organise cette journée?
Ben, la journée, elle a vraiment trois buts. Hein. Le premier but, c'est de permettre aux groupes qui cuisinent aux quatre coins de la ville de faire connaissance, de se rencontrer, de s'identifier comme faisant partie du même mouvement. Le deuxième but, c'est aussi de faciliter le partage de connaissances, le partage d'expériences. Ils vont tous se confronter, tous les groupes, je veux dire, vont se confronter sans doute au même type de difficultés. Il y a la question de... comment est-ce qu'on gère le partage d'une cuisine entre plusieurs, la question de l'hygiène, la question des petits comptes entre amis que ça demande, la question de l'approvisionnement, bien sûr, comment est-ce qu'on s'approvisionne à moindre coût, mais de qualité.
Puis bêtement, l'organisation, combien on sera pour cuisiner, c'est toutes pas des se marcher questions. Sur les pieds, voir combien de portions il faut faire, donc combien il faut acheter, c'est toute une logistique aussi.
Voilà, c'est la logistique de chaque groupe.
Qui a une logistique de mère de famille.
Ouais.
Mais à plus grande échelle.
À une autre échelle, ouais. Et du coup, c'est l'occasion de...
Enfin, ou de père de famille.
Après, ça reste, c'est vrai qu'on voit que c'est un mouvement qui est très féminin. La question de la nourriture au quotidien, ça reste une prérogative largement féminine. Mais il y a de plus en plus d'hommes aussi qui rejoignent les groupes. Et puis nous, on acte ça comme quelque chose qu'on peut mettre en valeur. C'est aussi un mouvement autour du quotidien. Et ces mouvements autour du quotidien, ils sont très souvent portés par des femmes. Et c'est souvent par là qu'il y a du changement qui arrive. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut revendiquer, même si voilà, le fait que ce soit si genré pose question. Mais il ne pose pas question d'ailleurs de la même manière, selon d'où on vient, selon le bagage culturel qu'on a, enfin voilà, tout ça.
L'histoire familiale.
L'histoire familiale et tout. Mais donc voilà, et le 3, donc ça c'était les deux premiers buts, c'est faire se rencontrer les groupes, à permettre un partage d'expériences et de connaissances sur des thématiques qu'ils rencontrent tous. Et puis le troisième but, c'est aussi de faire connaître le mouvement au tout venant et pour provoquer la création de nouveaux groupes. Et donc ça, c'est l'après-midi. Le matin, c'est vraiment, les membres du mouvement sont VIP, c'est vraiment pour eux, c'est un moment pour eux. Le midi aussi, c'est un moment de rencontre. Voilà, ça va être super bon, c'est chaque année super bon à midi. Ça discute beaucoup. Et puis l'après-midi, cette fois-ci, on l'a organisé sous la forme d'un festival avec différents stands. Et ces stands sont tenus par des groupes différents sur des thématiques qu'ils ont envie de partager avec les autres. C'est à la fois l'occasion de se rencontrer entre groupes, mais aussi de présenter très concrètement à des gens qui ne connaissent pas le mouvement ce que c'est, ce que ça demande. Il va y avoir un stand sur l'approvisionnement via le système VRAC. Il va y avoir un stand sur comment est-ce qu'on cuisine avec des invendus. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on arrive dans sa cuisine et qu'on a à gérer une masse d'invendus à trier, etc. Ben, y a des groupes qui sont devenus un peu spécialistes là-dedans. Et puis, il y a des groupes sur... Il y a un groupe qui avait envie de partager la confection de Charlotte. Mm-hmm. Ça entre un peu sur la question de comment on gère l'hygiène, la propreté. Dans le... Elles font des Charlottes en tissu très élégantes, mais en même temps très faciles à faire. Voilà. Et il y a plein de groupes différents. Il y a aussi un stand sur la cuisine. C'est quoi une cuisine fonctionnelle pour un groupe? Comment est-ce qu'on l'équipe?
D'accord. Ben, je vais te laisser alors du coup retourner à cette journée riche, puisqu'on est en enregistrement durant cette journée. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça et puis bonne suite à Cuisine de Quartier. Donc, on est voisines puisque studios de Radio Okai sont aussi dans les locaux de Zineke. Donc, on sera amené à se croiser souvent.
Ben oui. Et si vous avez entendu cette émission et que l'initiative ou la démarche vous tente, faut surtout pas hésiter à aller voir sur le site internet s'il y a déjà une cuisine ou un groupe à proximité de chez vous. Tous sont répertoriés sur le site.
Et donc site est bien Cuisine de Quartier.
Ouais, oui, Cuisine de Quartier, cuisine au pluriel de quartier au singulier .be. Et si vous ne trouvez pas de groupe ou de cuisine, ben appelez-nous et on cherche ça avec vous.
Je mange du pain et du sel de la mer et la terre, les yeux, la main, mon corps et sa faim. Oh, combien de fois je mange, je mange, je mange. Je mange du pain au sel de ta peau, mi-dor et mi-fatigué au soleil. Ton corps est à moi, mon corps est à toi, au son des rochers, devant l'océan, de sommes nus. Ensemble. Mais que vois-je dans le ciel? Un ange qui mange, un ange qui mange, un ange qui mange. C'est beau, on est beautiful, beautiful, yeah. Beautiful, 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 yeah. Beautiful, beautiful, on est beautiful, beautiful, yeah. Beautiful, beautiful. You're beautiful inside, you're beautiful outside, you're beautiful in the air, you're beautiful everywhere, you're beautiful inside, you're beautiful outside, you're beautiful. Oh, ooh, honey, beautiful, beautiful, you're beautiful, yeah, you're beautiful.
On y va. Y a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Mais je vous souhaite, au nom de toute l'équipe des cuisines de quartier, la bienvenue ici. Merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir bravé le froid. Il fait chaud ici. On avait peur qu'il fasse froid dans la salle, mais non. Il fait bien chaud. Cette journée aujourd'hui, c'est une journée où on rassemble tous les membres, les groupes membres du mouvement. Ce matin, il y a eu deux conférences-ateliers données par Tessa, qui est là, notre collègue Tessa, sur la conservation, et par Fazia sur le pain, Fazia reparti. Ensuite, on a partagé un banquet et on est maintenant à l'ouverture du festival des cuisines. C'est un moment qui est ouvert à toutes et tous. Et donc voilà, bienvenue. Ce moment de la rencontre annuelle, il a pour nous plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre aux groupes qui cuisinent dans toute la ville, aux quatre coins de la ville, de faire connaissance, de se rencontrer. Le deuxième but, c'est de leur permettre aussi d'apprendre les uns des autres, de s'apprendre les choses qu'ils font, eux, dans leur groupe. Et puis, le troisième objectif, c'est de faire connaître la démarche des cuisines de quartier à un maximum de monde pour provoquer la création de nouveaux groupes. Pour vous donner un petit goût de ce qui s'est passé ce matin pour les cuisines de quartier, je vais passer la parole à Esteban et à Valérie, qui sont en fait un peu notre mémoire vive de la journée. Donnez-nous un petit goût de ce qui s'est passé ce matin.
J'ai vu la structure d'un grain de blé placé au microscope, le levain passé de main en main, des gens ressortir avec de l'espoir et qui vont commencer leur levain ce soir.
J'ai entendu des fils de mots aux accents mystérieux. J'ai entendu « l'oxygène fait pourrir ». J'ai entendu « tous les vinaigres commencent par être de l'alcool ». J'ai entendu « le corps gras est un véhicule pour le goût ».
J'ai senti le café qui rassemble, les parfums mélangés dans mon assiette. J'ai touché du levain sec en petits blocs pour emporter en voyage, pratique, des grains de blé du monde entier et les pains apportés par Fazia qu'on s'est empressé de dévorer. J'ai goûté la focaccia au levain de Fazia avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile d'olive, le meilleur crumble à la courge de Bruxelles et des invendus transformés en festin.
J'ai respiré la confiture sèche d'orange, un bouillon de légumes de 2023 qui n'a jamais vu un frigo de près. J'ai respiré l'intérêt pour l'autre et les liens entre les uns, les unes et les autres.
J'ai imaginé un monde sans glyphosate, sans frigo, où l'on cuisine chaque jour avec une technique de conservation différente, et connaissant Tessa, il y en a sûrement une pour chaque jour de l'année.
Nous avons imaginé que le mouvement des cuisines de quartier prenne la direction du monde entier. Nous avons imaginé les cuisines comme modèle de société.
T'as vu, c'est...
Et je donne un coup de main, là, ici.
Ah, tu donnes un coup de main.
Bah,
ah oui, c'est juste encore un coup de main.
Ah, ah. J'essaie de pas faire trop de pression.
Je suis encore prête pour la boulangère. C'est pas grave. Ça, c'est quoi? C'est de la farine classique?
La farine de froment, oui. C'est la farine. Oui, c'est la plus commune. En fait, à l'époque, je travaillais dans un restaurant et j'avais demandé à mon chef d'où venait la farine qu'on utilisait pour faire le pain. Et il était incapable de me dire quelle variété d'épeautre, de froment ou de seigle on utilisait pour faire le pain. Et genre, le week-end d'après, je me rends au moulin où on achetait nos farines. Et j'arrive au moulin, je leur pose la même question, avec quelle variété d'épeautre, avec quelle variété de froment, de seigle vous faites la farine. Ils étaient incapables de me le dire. La seule réponse que la vendeuse m'avait donnée, ah ben, c'est des numéros de lot. Quelle variété d'épeautre, aucune idée. Ça vient des producteurs de la région, mais on ne sait pas quelle variété. Et à partir de là, j'ai commencé à fouiller c'est quoi une variété de blé, c'est quoi un blé moderne, un blé ancien. Et puis j'ai découvert la biodiversité qu'on a au niveau des céréales, en fait, toutes les céréales oubliées. Donc les populations paysannes, populations anciennes, qu'on cultivait en fait avant la révolution industrielle. Avant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la génétique et la sélection, le métier de sélectionneur va prendre le dessus et les multinationales de semences vont commencer à se créer. Et on va commencer à modifier beaucoup de choses au niveau des variétés de plantes. On fait ça pour les plantes, les fruits, les animaux. Et on va délaisser petit à petit toutes les variétés anciennes que des paysans et paysannes ont mis des milliers d'années à sélectionner avec beaucoup de passion, pour faute de rentabilité ou pour faute de pas... Elles ne répondent pas correctement à l'azote, à tous les produits chimiques qu'ils voulaient recycler dans l'agriculture. Du coup, elles vont être mises de côté. Oublié presque, jusque dans les années 2000, où quelques paysans, paysannes, où il y a des régions aussi, des villages, des régions reculées, où ces variétés-là n'ont jamais disparu. Mais ici, en Europe, c'est tout un travail qui a commencé depuis les années 2000 pour revenir aux semences paysannes. Et c'est le réseau... Moi, c'est à partir de la rencontre du réseau semences paysannes en France que je découvre en fait toute cette diversité et toute cette richesse qu'on a mis de côté et qui représente le patrimoine de l'humanité, ouais. En fait.
Et donc au départ, vous décidez alors de cultiver ces oubliés, en fait.
Oui, en fait, à partir du moment où je les ai découverts, je suis tombée amoureuse et je me suis dit, en fait, je veux pas juste être boulangère, je veux être paysanne boulangère. Je veux pouvoir les cultiver, faire la farine, faire le pain. Et donc, j'ai dû aller me former en France chez des paysans boulangers et puis revenir en Belgique, rencontrer les acteurs, actrices en Belgique qui cultivent les variétés anciennes et intégrer un réseau de semences paysannes en Belgique et continuer les voyages en Europe. Je suis allée jusqu'en Géorgie pour aller voir les semences paysannes. Et donc, vraiment, je continue encore. Là, aujourd'hui, je pars en Bretagne pour une rencontre autour des semences paysannes. Et donc, je continue encore à fouiller, à chercher. J'ai encore rien. J'ai encore même pas rencontré la moitié de cette diversité encore qu'on a mis de côté.
Et donc, concrètement, ça veut dire que vous cultivez, vous faites le pain. Et on peut le trouver où, votre pain ?
À partir de mois de janvier, il va être disponible à Couvain. Et dans la région
de Couvain. Donc là, vous cultivez et là, vous faites le pain.
Oui, tout à fait. Je serai sûrement sur les marchés où il y aura des points de dépôt dans des magasins bio de la région.
Ouais. Okay. Et est-ce que vous pouvez donner votre nom ?
Alors, moi, c'est Fazia et mon projet, c'est Atelier du pain vivant.
D'accord. Et on peut vous trouver quelque part sur...
J'ai un site internet que je vais réactiver puisque j'ai mis en pause. J'étais partie en voyage justement pour aller découvrir les blés en Géorgie. Et là, je me réinstalle petit à petit à partir de janvier à Couvain. Et à partir de là, les gens peuvent aller sur le site, peuvent avoir mon contact et peuvent venir me rencontrer. Et aller dans la suite du projet, l'idée aussi, c'est de donner des formations, soit à des particuliers qui veulent apprendre à faire leur pain avec des variétés anciennes, ou à des boulangers, boulangères qui veulent se réorienter et réapprendre à utiliser les variétés anciennes. Parce que il faut savoir aussi que les savoir-faire liés soit à la culture, à la meunerie ou à la boulangerie à partir de ces variétés-là a été aussi perdu
conservés dans certaines régions du monde, et heureusement, et c'est les rencontres internationales qui nous permettent en fait d'aller chercher, retrouver ces savoirs et savoir-faire autour des blés populations et anciens.
Avec le sérieux, quand tu fais la pâte, que tu mets le beurre,
tout
ça. Donc ça fait avec des piments d'Afrique.
Ouais.
Tu nous expliques. Ouais, tu fais aussi avec des oranges.
Ouais. Alors ça, c'est.
Haricots.
C'est des
petits haricots. Normalement, ça devrait être plus vert. Parce que j'ai trop longtemps blanchi. J'aurais dû rester au-dessus de ma casserole et faire vraiment une minute. Tu t'enlèves, tu refroidis. Mais j'avais la flemme, j'étais en train de faire autre chose. Normalement, ça, en plus, c'est vert comme la salade.
Ah oui.
Donc, c'est une révolution.
On enlève ça.
Oui. Pas beaucoup de temps.
C'est réhydraté ici. C'est réhydraté. C'est réhydraté.
Oui.
Pas déshydraté.
Ça vaut la peine.
J'insiste.
Pour faire une saumure.
Ben, bonjour Tessa. On a pu t'entendre là tout de suite avec la présentation de l'ASBL, puisque tu fais partie du noyau dur de l'ASBL Cuisine de Quartier, mais aussi en atelier ce matin sur la conservation des aliments. Alors d'abord, la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter et expliquer ton lien à Cuisine de Quartier, comment tu es arrivée à Cuisine de Quartier?
Ah oui. Donc moi, mon truc, c'est la nourriture. Donc, comme je disais, j'y pense tout le temps. Donc, et dans des termes plutôt de réappropriation de sa nourriture. Et donc, j'ai travaillé pour les cuisines de quartier, d'abord en freelance, en donnant justement les ateliers du matin. Ils avaient besoin d'intervenants sur certains sujets très précis. Des sujets qui avaient été demandés par les groupes de cuisine de quartier. Des questionnements émanant de ce mouvement qu'on voit ici. Et j'ai fait ça 2 années consécutives, donc pour la rencontre annuelle. Et puis ensuite, l'ASBL est venue me demander si je voulais travailler pour eux en tant que salariée. Et c'est le cas donc maintenant. Je travaille à mi-temps pour cuisine de quartier. Et mon travail, c'est le terrain. Donc avec Fanny, on est 2 personnes qui travaillons vraiment dans tout Bruxelles. Et j'accompagne donc, disons, un petit tiers des groupes, de tous les groupes de cuisine et quartier, et Fanny s'occupe des autres groupes.
L'atelier qu'on a pu suivre avec toi ce matin, c'était sur la conservation, parce que c'est bien de cuisiner, mais il faut pouvoir conserver, surtout quand on l'a fait dans des proportions plus importantes.
Oui.
Est-ce que tu as 2 ou 3 tips que tu pourrais partager avec des auditeuristes de comment conserver, ou toi, quelles sont tes méthodes de conservation que tu aimes particulièrement et que tu utilises particulièrement chez toi?
Il y a le fait d'aller assez vite mettre au froid, donc de ne pas laisser les choses trop longtemps dans une température où la nourriture pourrait changer d'aspect ou de goût. D'utiliser des contenants adéquats. Comme par exemple ce matin, j'ai montré que les salades, on peut les garder dans un linge humide pendant facilement 1 ou 2 semaines sans qu'ils se détériorent, alors que si on les stocke tels qu'on les a achetés, ça se détériore. Donc chaque aliment, type d'aliment, a un lieu où il aime être dans la maison et un type d'emballage où il aime se trouver. Et si on le sait ça, on gagne énormément d'argent et de plaisir aussi. De nouveau acheter des plus grandes quantités. Parce qu'un des maux de la société, c'est d'acheter tout en micro-portions qui sont déjà coupées, donc il y a beaucoup de pertes de goût. Et quand on achète en plus grande quantité, par exemple un potiron, il sera plus savoureux parce qu'il est entier chez vous que d'acheter un petit morceau emballé. Il a déjà perdu une bonne quantité de son goût et de ses qualités.
Alors, le plus simple, on va vous servir. Vos plats sont là.
Oui.
Oui. Mais attends, je vais d'abord. Je vais vous servir. Vous me dites ce que vous voulez et vous asseyez là. Vous avez vos 2 tables pour vous. Ça va?
Oui.
Alors, Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est pratiquement tout sans gluten, donc il n'y a pas d'allergie.
Il n'y a pas d'allergie, enfin, en tout cas pour moi.
Non, mais voilà. Non. Alors, est-ce que je sers de tout?
Qu'est-ce qu'on a?
Alors, est-ce que... il y a le riz blanc. Tu as ici... Enfin, je ne connais pas tout par cœur. Ah, c'est collé. Alors ici, tu as des beignets Padora avec de la feta. Ici, c'est... tu as de la betterave rôtie avec du chou.
Crumble de petit marron.
Voilà. Ici, tu as un crumble petit marron. Ici, tu as les chicons. Chicons rôtis et pommes caramélisées. Et alors, après, bon, tu as le pain. Et ici, tu as un nom spécial que j'ai difficile à dire. C'est à base de... c'est un, des lentilles aussi. C'est un genre de crème un peu souple. Donc, je dirais qu'il faudra la servir dans des verres, peut-être. Par contre, on oublie les gants, les enfants. Les gants, ils sont là.
Moi, j'ai les gants. Je remets toujours.
Putain, où ils sont, où les gants? Les gants bleus. Bon, alors, tu m'as dit du riz. Ensuite.
Du poulet.
Je te mets une. Je verrai après combien c'est. Ouais.
Et crumble. S'il
crumble.
Vous plaît.
Mes doigts sont propres.
Des gants.
Oui. Et quoi d'autre?
Un petit pain.
Petit pain. Ouais.
Un peu de sauce.
Un peu de ça?
De sauce, oui.
Ouais.
Voilà, je commence par ça.
C'est bon? Pour tu peux lui apporter la chèvre?
Je suis Mel, je suis de Cuisine Casa. On travaille les 122 du marché. Voilà, comme vous pouvez voir ici, il y a quelques ingrédients pour faire une petite recette.
Donc ça, c'est après le marché.
Oui.
Voilà, il y avait, c'est le marché de Skerbeek.
Oui, que, exactement, c'est
Cuisine
les
Casa.
Pour exemple, ouais. Je vais montrer une photo ici. Ça, c'est l'avant et ça, c'est l'après.
Donc, vous montrez une photo où il y a des invendus que vous avez récoltés.
Oui, c'est les invendus qu'on avait reçus.
Vous avez reçu.
Et voilà, ils sont transformés en plat.
Et là, par exemple, à côté de nous, on a une caissette avec des invendus de marché.
Voilà, ici...
Vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans la caissette et
ici,
ce que vous pouvez faire.
Voilà, il y a des pommes, il y a des céleri, il y a des aubergines, il y a des pommes.
Des oranges.
Et oranges. Alors,
donc, je vais au marché, à la fin du marché, je récolte tout ça. Il y a des aubergines qui sont un peu abîmées. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, avec ça?
Par exemple, ça, c'est utilise la partie bonne.
Donc, les aubergines, il faut couper le morceau qui est un peu abîmé.
Oui, les morceaux abîmés. Et voilà, la même chose avec les pommes, ils sont abîmés aussi. Voilà, couper les morceaux abîmés. Et de là, sortir pourquoi pas une bonne recette.
Et qu'est-ce que vous pouvez proposer avec cette... on a des aubergines, des
oui,
pommes,
des
oranges.
Oui, des aubergines et des oranges. Ouais, je peux faire une recette provisoire. Par exemple, on pourrait faire des aubergines farcies à l'orange et des pommes.
Et comment est-ce qu'on ferait, par exemple?
Et par exemple, on se coupe les aubergines en deux. On se... Oui. On se coupe les aubergines en deux, par exemple, et se sort la garniture qu'il y a dedans. On se fait revenir à la poêle avec de l'huile et les petites tomates qui se trouvent là.
Oui, parce qu'il y a aussi des petites tomates, oui, cerises dans là.
Et aussi, on se coupe les pommes et se fait revenir aussi à la poêle avec la garniture de l'aubergine. Et on se remplit une fois la partie qui est restée là et on se met au four. Comme ça, vous avez des aubergines un petit sucré pour la pomme, mais à la fois quelque chose de différent à ce que vous mangez chaque jour.
Et donc ça, c'est avec tout ce qu'on a récupéré et qu'on n'a pas acheté.
Exactement. Et avec ça, on se les donne un pot de...
Un pot de verre avec
un pot de verre, plutôt. C'est un truc magique que doit avoir en chaque plat différent.
Pour donner un peu de croquant au-dessus des aubergines.
Et avec la peau de l'orange, voilà, on sait, pour avoir un peu de zeste d'orange dans les pommes, et va avoir ce contraste entre l'aubergine, la pomme et l'orange qui va être top.
Bonjour Apolline.
Bonjour.
Toi, tu fais partie des casseroles de Riga à Skarbek, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça.
Et ça fait longtemps que tu es dans ce groupe de cuisine de quartier?
Ça fait 4 ans maintenant.
Ah ouais, déjà. Et on me dit que tu es un peu coordinatrice, c'est ça, du groupe?
Oui, c'est moi qui veille à ce que la communication passe bien, que tout aille bien dans le groupe, oui.
Et comment est-ce que tu as connu ce groupe-là? Comment est-ce que tu as... Ça a été quoi ton moteur pour aller aux casseroles de Riga et aux cuisines de quartier?
Les casseroles de Riga, c'est la belle Riga qui a... voulu ouvrir un groupe de cuisine avec des habitants, donc j'ai pu participer, du coup, voilà. Et après, on a connu les cuisines de quartier, mais par ce biais-là, en fait, et voilà.
Et comment ça se passe, les casseroles de Riga, c'est quoi, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois?
Ben, au début, c'était toutes les deux semaines, et depuis septembre, c'est toutes les semaines. Une fois par semaine.
Et donc vous vous rassemblez et vous cuisinez. C'est quoi? C'est vous sur base d'un vendu? C'est vous qui faites les courses? Comment ça se passe?
Nous, on demande un budget aux participants du groupe et après on fait les courses. On travaille pas avec les invendus. On fait les courses nous-mêmes et puis on cuisine en fait.
Et la dernière chose que tu as cuisiné aux casseroles de Riga?
On a cuisiné du poulet curry coco butternut.
C'était bon. Et là, donc, tu fais partie des... donc, les casseroles de Riga font partie des stands de ce festival des cuisines de quartier. Et vous proposez quoi, en fait, ici? Qu'est-ce que vous expliquez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui viennent à votre stand?
Bah, en fait, là, ce qu'on présente surtout, c'est... le travail de la charte qu'on a fait, mais il n'y avait que moi de mon groupe. Mais du coup, on a élaboré une charte pendant un petit temps, et puis on est d'accord avec tout le monde, et là on présente la charte qu'on a faite.
Ouais, tu veux peut-être que je t'aide. En fait, la charte, c'est pour faire le respect des cultures, des convictions, ainsi multiculturelles, et le goût, et aussi le respect des uns et des autres, en fait. Donc voilà, d'avoir des règles, parce qu'il en faut toujours pour pouvoir respecter nos consoeurs, en fait.
Et toi, est-ce que tu peux dire comment tu es arrivée aux casseroles de Riga? Comment ça s'est passé pour toi?
Moi, c'est un peu de la même manière qu'Apolline, parce qu'on est dans le même bâtiment. Donc on fait partie du projet ASBL Riga. Et donc, en tant que locataire, on nous a proposé des activités. Et du coup, on a commencé avec l'atelier cuisine entre nous.
Et peut-être un tout petit mot de l'ASBL Riga.
C'est un projet solidaire qui réunit en fait des personnes handicapées avec des personnes totalement valides et d'autres personnes comme moi qui peuvent aussi avoir des enfants qui sont aussi un handicap, mais pas spécialement PMR, mais plutôt autisme et autres.
Et tes enfants participent aussi, cuisinent aussi ou pas toujours?
En fait, ma fille, non, parce que comme elle est autiste sévère, c'est un peu plus compliqué pour elle. Donc, dû son handicap et son palais gustatif assez, pas fermé, mais autrement ouvert, il n'est pas fort possible. Et donc, en fait, on cuisine entre nous adultes parce qu'il y a des couteaux et tout. Et donc, si on devait ouvrir, il faudrait beaucoup plus de personnes valides. Et donc là, dans le groupe, je suis la seule. Et alors, il y a des habitants qui viennent nous aider. Ils sont super sympas aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est ça qui est convivial. C'est qu'on a de temps en temps des petites mains de Maria, de Farid et par-ci, par-là. Et donc, c'est ça qui fait un tout.
Voilà. Bonjour, Ferhat, si je lis bien votre badge. Donc vous représentez donc Ça Chauffe. D'abord, j'avais envie de savoir comment est-ce que vous avez connu Cuisine de Quartier. Et puis on parlera de Ça Chauffe. Donc Cuisine de Quartier, pour vous, c'est quoi et comment vous avez connu?
Cuisine de Quartier, je l'ai connu par l'intermédiaire d'un ami. Donc je suis arrivé là-bas, donc j'étais curieux. Ce qui fait que par la suite, bon, je me suis intéressé. Et j'y suis encore là, ça fait plus ou moins 8 ans. Donc, mais c'est bien parce que, premièrement, on y découvre de nouvelles choses. C'est tout le temps différent. Et puis alors, il y a la convivialité des gens qui viennent parce que certains viennent, certains restent, certains partent. Et puis, bon, c'est ce qui fait qu'un groupe, et ça nous permet de travailler ensemble.
Et Ça Chauffe, c'est quoi exactement? C'est un des groupes de cuisine de quartier, c'est ça? Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler?
Ça Chauffe, c'est un des cuisines de quartier qui a commencé, c'était un des premiers. Et ce qui fait que, bon, par la suite, il y a d'autres groupes qui se sont ingérés et qui se sont intéressés. Et puis, bon, ça s'est agrandi petit à petit. C'est pour ça que maintenant, il y a plusieurs groupes qui se sont formés.
Et est-ce que vous pouvez expliquer plus ou moins comment vous fonctionnez à Ça Chauffe?
C'est-à-dire que quand on arrive le matin, le mardi, on fait un briefing, on parle d'abord, on discute et on regarde ce qu'on va faire, suivant ce que nous avons comme marchandise. Parce que la marchandise, une certaine partie, nous arrive des restes qu'on reçoit. Et avec ça, on cuisine. Et le complément, donc si on veut faire un petit complément, ben, on va le chercher au magasin.
Et vous êtes situé où exactement?
On est situé au boulevard de l'Abattoir, numéro 29 ou 27.
D'accord. Et le plat que vous avez préféré préparer à Ça Chauffe, c'était quoi?
Une spécialité, on n'a pas. Parce qu'il y a plusieurs nationalités. Donc ce qui fait qu'on ne fait pas toujours la même chose. Ça diffère.
Et vous, personnellement, c'est quoi que vous préférez préparer et manger?
C'est jamais... J'aime bien les plats au four. Et alors, on me demande beaucoup préparer la soupe. Et je fais la soupe. Ils aiment bien.
Et votre soupe, celle que vous faites le mieux, c'est laquelle?
Il n'y a pas de préférence, qu'elle soit rouge, blanche ou verte. Elles sont toujours bien. Vous pouvez demander ici à mon ami ici. Il va vous dire.
Oh oui, c'est un top chef en soupe tomate. Hein.
Avec ou sans boulette?
Sans boulette. Sans boulette. Sans boulette. Disons que la viande, on n'utilise pas beaucoup de viande. Okay. C'est surtout uniquement beaucoup les légumes, ça oui. Mais question vente, c'est peut-être une fois ou deux fois par an. Parce qu'il y en a qui demandent pour manger de la viande, Mais ça, c'est un supplément, mais il faut payer. Oui, bon, voilà. Mais on essaie de manger le moins possible de viande.
Eh bien, je veux compléter pour dire que le problème et l'idée, ce n'est pas seulement de payer, non, loin s'en faut, c'est que nous, notre mission d'abord, c'est d'opter pour une alimentation saine. Et c'est pour cela qu'à Ça Chauffe, nous partons d'abord des produits de récup, qui sont des produits sains. Il s'agit aussi à Ça Chauffe, on a aussi une mission pédagogique, c'est-à-dire d'éduquer des gens, de former des personnes, de leur dire qu'il faut manger sain. Et manger sain, ça n'a pas des légumes, des produits non surgelés, des produits non conservés. Donc voilà. Donc c'est pas parce que on peut bien manger de la viande, mais Ça Chauffe. Nous proposons de l'alimentation saine. C'est ça.
Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que j'arrive. Eloge.
Oui, moi je suis Eloge.
Bah, merci beaucoup à tous les deux.
Je vous en prie.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que le sujet vous a enthousiasmé vous aussi. N'hésitez pas à rejoindre le mouvement. Toutes les infos sont sur leur site www.cuisinedequartier.be. La cuisine de quartier du quartier Nord, comme Amina l'a dit, c'est une fois par mois, plus ou moins, dans les locaux du PCS, rue du Travail, au numéro 13. Au mois de mars, des formations débutent aux cuisines du quartier, dont, pour rappel, les locaux se situent Place Mazuy, au numéro 13 aussi. Et l'association fera aussi partie de Nourrir Bruxelles. Toutes les infos sont sur leur site, pour rappel, www.cuisinedequartier.be. Merci à elles donc, ces cuisines de quartier enthousiasmantes, polyvalentes et joyeusement engagées, de nous avoir ouvert les portes de leurs coulisses et de leur fonctionnement. Merci à Radio Campus, sans qui nous serions sans ondes données. 92.1, on le rappelle, et ça se passe tous les 4e samedi du mois, à 20h. Merci à la ville et à la région, sans qui nous n'existerions pas. Merci à Zineke, sans qui nous serions sans studio fixe. Merci à Romuald pour ses oreilles parfaites. Et merci à vous tous qui nous écoutez. N'oubliez pas, Radio Okai, c'est un peu nous, mais c'est surtout beaucoup vous. Dites-nous tout sur radiookai.be et au mois prochain, si vous le voulez bien.